מה שמשפט רגע ומשפט הוא קשר וישר שירצית טוטל מה זה כתב?
אני פשוט קומבשי או קשר עולה
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre tribune quotidienne Parole aux auditeurs, espace d'échange et de partage sur les grandes préoccupations de tous les jours. Ce vendredi 12 mars 2010, ce dernier numéro de la semaine s'épanche sur un phénomène qui s'observe de plus en plus dans plusieurs villes de la RDC. Il s'agit des personnes aux apparences normales et conscientes qui quémandent l'argent auprès des autres, soit pour payer un ticket de transport, soit pour régler une facture de soins médicaux, soit couvrir les frais funéraires. Et les autres se font passer pour des prophètes et réclament l'argent après avoir adressé une parole prophétique à son interlocuteur. Et dans cette confusion, il devient alors très difficile de distinguer les vraies nécessités de qui peuvent bénéficier des œuvres de bonne volonté de la part des bienfaiteurs de ceux qui commettent des abus en se faisant passer pour des nécessités. Vous avez la parole pour vous exprimer sur cette situation. Des questions pour le débat de ces jours. Comment vivez-vous cette situation dans votre milieu et que faut-il pour faire face à ce phénomène? Vos réactions, témoignages, points de vue et propositions sont les bienvenus dans cette émission. Nous aurons au téléphone dans Parole aux auditeurs d'aujourd'hui Monsieur l'abbé Joseph Bambé. Il est professeur en sociologie et enseigne aux facultés catholiques de Kinshasa. Et cette émission est réalisée par Marie Chantal Lumba, Sistine Poutou, sous la supervision de Ben Kabamba, dans une mise en onde de Guy Manzango. Et Piero et la Mégie vous la présente. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081 99 77 800, par internet en écrivant à pa@radiocatholique.net.
Comme je venais de le dire à l'introduction de cette émission, il y a un phénomène qui s'observe dans la société congolaise, ici dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC. Ce sont de personnes qu'on peut appeler communément mendiants, des personnes qui quémandent ça et là au coin de rue. Mais le phénomène qui intéresse parole aux auditeurs ce matin, ce sont ces gens qui sont bien habillés, apparemment conscientes et qui demandent de l'argent, soit c'est pour compléter un ticket de transport, soit c'est pour payer une facture de soins médicaux, soit couvrir les frais des funérailles. Les autres qui se sont passés pour des prophètes dans les coins de rue réclament de l'argent à leurs interlocuteurs après leur avoir adressé une parole prophétique. Dans cette confusion, alors, il devient très difficile de distinguer les vrais nécessiteux de ceux qui commettent les abus. Quelle est la situation dans votre ville, dans votre milieu? Comment vous vivez cela et que faut-il pour faire face à ce phénomène? Nous en parlons avec vous, les auditeurs des Radio Capi. Nous avons déjà au téléphone le professeur Joseph Bambé. Vous êtes Michel Abbé, vous enseignez aussi la sociologie. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans cette émission. Peut-être la première question, c'est comprendre et permettre à un auditeur de comprendre en principe qui est un mendiant d'une manière générale. Comment, quelle personne peut être appelée mendiant dans la société?
De manière classique, un mendiant est une personne dont l'activité principale consiste à demander de l'argent ou de la nourriture ou autre chose par charité. Alors, je sais là-dessus, par charité. Alors, le mendiant s'adresse à n'importe qui. Il passe de porte à porte, de lieu en lieu. Il s'établit sur la voie publique, sur le seuil des églises, par exemple. Il cherche les endroits les plus fréquentés par les gens. Il se borne, non pas seulement à exprimer ses désirs, mais il en est un des tristes symptômes. Alors, il cherche à émouvoir par son langage. Mais il se dégrade et triomphe. Le mendiant quitte sa demeure parfois. Qui cherche des visages inconnus, des personnes qui n'ont jamais vu et qui ne les reverront jamais. Et ils s'abreuvent souvent d'humiliation parce que les gens ne sont pas toujours sympathiques. Voilà de manière pratique comment on peut définir un mendiant.
Vous savez, si un mendiant peut avoir un domicile, c'est-à-dire qu'on peut l'identifier en tant qu'étel dans un quartier, on sait que celui-ci habite cette maison, c'est un mendiant, ou c'est quelqu'un aussi qui habite, qui va de lieu en lieu qu'on ne peut pas identifier d'une manière fixe dans un quartier sur une avenue, par exemple.
les deux. Il peut avoir un domicile fixe, il habite ici, mais il vit dans la misère. Tout le monde qui se trouve autour de tout sait que vraiment il est dans, il est un nécessité. Aussi, il y en a qui n'ont pas un, comment dire, un domicile fixe. Il se balade à gauche, à droite, les deux, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, monsieur Labbé. On va vous garder dans cette émission parce qu'il y a aussi quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, hein, comme Fiston qui est à Walikale, c'est dans la province du Nord Kivu, et Gustave qui nous appelle de Kananga au Kasai Occidental. On va leur donner la parole, hein, pour témoigner aussi de si ces phénomènes se trouvent aussi dans leur ville, et on pourra revenir à vous de temps en temps pour commenter ces sujets. Mais les auditeurs ont pu déjà comprendre la définition d'une manière générale de mendiant, une personne qui demande la cité principale et des demandes de l'argent ou de la nourriture. C'est, on a beaucoup insisté sur les mots par charité et on va en parler tout le long de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Fiston, vous êtes à Walikale, au Nord Kivu. Fiston, bonjour.
Ah oui, bonjour, Téli. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi à travers la République démocratique du Congo.
Fiston, nous parlons de mendiant, mais nous mettons un point, le point sur lequel nous insistons aujourd'hui, hein, c'est cette forme de mendicité, s'il faudrait l'appeler ainsi. Les hommes qui sont bien portants, qui sont bien habillés, qui demandent de l'argent, soit pour payer les transports, soit. Et ces personnes, on se rend compte qu'ils sont. Ils peuvent vous demander à 12 heures, et ils oublient que vous avez été avec monsieur la même avenue à 12 heures, ils vous croisent encore à 14 heures, ils vous demandent de l'argent. Est-ce qu'à Walikale, vous vivez aussi cette forme de mendicité, Fiston?
En fait, par rapport à ces situations, donc, je considère comme sont des phénomènes. Et que phénomène-là, c'est d'abord par rapport à la pauvreté. Vous savez que si quelqu'un est pauvre, nécessairement, il doit être demandeur. Et c'est que nous constatons, et surtout dans la ville de Goma, et donc notre province du Nord Kivu, et comme ici à Walikale, cette situation n'est pas encore n'est pas opérationnelle. Mais à moins nous les constatons dans la ville, par-ci par-là, les gens demandent. Et ça, nous considérons comme une façon de pauvreté dans notre pays. Et si quelqu'un qui n'est pas pauvre, ce n'est pas favorable, ce n'est pas, utile de demander l'argent par-ci par-là qui soit considéré comme mendiant. Mais tout ça, nous les qualifions comme des signes de pauvreté. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un qui veut peut-être assez ou un peu de l'argent et il peut demander par-ci par-là. C'est négatif. Donc nous considérons que c'est un signe de pauvreté.
Vous pensez que les gens qui demandent de l'argent, ce sont des pauvres, mais ici nous avons aussi des hommes qui sont bien portants apparemment, qui peuvent bien se débrouiller pour travailler, mais qui demandent l'argent en utilisant par exemple une ordonnance médicale. Ils circulent avec cette ordonnance le long des journées, on l'a dit dans beaucoup de villes. Ils vous présentent l'ordonnance, ils demandent de l'argent pour aller payer les médicaments, ils présentent l'ordonnance, chaque jour il a cette ordonnance en main. Et vous pensez aussi que c'est la pauvreté qui l'amène à faire ça?
Bon, écoutez, oui, c'est par rapport à ça. Vous savez que si c'est la pauvreté, parce que si vous avez la pauvreté, nécessairement, et comment expliquer que vous êtes en pro, vous êtes propre, vous êtes, je ne sais pas quoi, si votre rang social, et ça vous demande que vous avez quelque chose, vous avez de l'argent. Mais ça, je considère que c'est tout signe de pauvreté. Et voilà que je peux l'estimer que, voilà, c'est la pauvreté qui mène tout ça. Il peut avoir ça, des ordonnances, par-ci, par-là, mais ça justifie de sa façon. Si je le vois à ma face, je dois considérer que, voilà, c'est une personne dominée et peut-être n'a pas les moyens de le faire. S'il avait les moyens, il ne pouvait pas pousser cet argument de montrer les ordonnances ou des documents qui justifient qu'il est, n'est-ce pas, en façon de manquer de l'argent pour aller payer les soins médicaux. Là, on peut comprendre. Donc, je considère que c'est une de pauvreté.
Merci, Fiston. Vous êtes à Walikale. C'est la pauvreté qui amène les gens à mendier, à faire cela. Gustave, vous êtes à Kananga, au Kasai Occidental. Gustave, est-ce que vous êtes mieux ma vie que Fiston, que tous ces gens qui sont dans le coin de rue, même ceux qui sont bien habillés, ceux qui sont avec les enfants à tout moment, en les présentant aux gens qui sont malades, il faut qu'on puisse les faire soigner. Est-ce que c'est aussi la pauvreté ou à Kananga, vous les vivez autrement, Gustave?
Oui, merci bien pour la radio, Kati. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que mes camarades viennent de dire. À Kananga, cette situation d'ailleurs est tellement accentuée du fait que nous manquons d'abord les emplois, il n'y a pas d'emploi, et puis il y a le chômage. Le chômage est dû aux différentes crises. D'ailleurs, si nous partons dans les familles, nous voyons certaines familles qui abandonnent leur fils ou leur fille et ce dernier se transforme ou se font des mendiants. Et d'ailleurs, il était mieux que le gouvernement puisse d'abord s'en charger. Dans quel sens? Il peut créer des petits emplois et cela peut contribuer à lutter contre cette situation ou ce phénomène. Et deuxièmement, si normalement un travailleur manque son salaire à la fin du mois, il fait peut-être 3 à 4 mois impayé. Il peut se retrouver dans cette situation de mendicité, il peut commencer à mendier. Et là, il dit peut-être à la malgestion de notre gouvernement, parce que normalement, le gouvernement s'en chargeait aussi à créer des emplois. Je ne pense pas que cette situation peut être accentuée dans les villes, dans les différentes villes, comme nous le vivons à Kananga. Je crois qu'il est mieux que le gouvernement puisse s'en charger à créer des emplois. Parce que si normalement une personne se trouve dans une situation d'employement, il peut se faire aussi un mendiant. Je crois que c'est ça mon apport.
Merci Gustave. Le manque d'emploi et le chômage, l'abandon de famille amène des gens canadiens d'envoyer les enfants sur la rue pour quémander, et même les adultes qui commencent à mendier à cause de cela. Merci de votre intervention, Serge. Vous êtes abonné à Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot.
Est-ce que le manque d'emploi, la pauvreté, le chômage, cela est à la base de la multiplicité de mendiants qu'on retrouve sur la route, et même les autres aussi qui se font passer pour de prophètes, qui donnent des prophéties et qui après demandent de l'argent. Est-ce que cela aussi est dû à la pauvreté, au manque d'emploi, ou bien à Bounia, vous les vivez autrement, vous avez d'autres causes, Serge?
Oui, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, selon de la manifesté, est en train de prendre beaucoup plus d'emploi. Cela est dû notamment par donc, le manque d'emploi, mais aussi par le fait que tous ceux-là qui se retrouvent tout au long de la rue est allé à même le sol, ce sont ceux-là qui ne font rien par leur dit doigt, donc je dirais simplement, à leur dit doigt, là, ils ne mettent pas, donc, en travail, et ils sont en train de régner le ciel et la terre, pour de moins tenir quelque chose de part, ceux-là qui disposent d'assez de moyens. Et je pense que, comme proposition, je demanderais tout simplement au gouvernement de faire au moins, donc, un certain nombre de mesures d'encadrement, par tous ceux-là qui se retrouvent, donc, allés le long de la rue, afin de les encadrer, d'aider à se trouver dans un centre bien déterminé. Tel est le cas, par exemple, avec les enfants abandonnés, les enfants orphelins. Et le gouvernement pourrait arriver dans son pays à décater ce problème qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur.
Oui, Serge, mais ici, nous avons un problème de aussi différencier qui sont les vrais nécessiteux. Comme vous dites, les enfants, les orphelins, ceux qui sont abandonnés, effectivement, ce sont les nécessiteux à qui on peut venir en aide. Mais il y a aussi, derrière les nécessités, il y a aussi des gens qui ne sont pas en principe des nécessiteux. Par exemple, quelqu'un qui circule, on le voit ici ce matin, et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un agent de Radio Capi, lui-même de Radio Capi, non même de Radio Capi, quelqu'un, un papa bien habillé, il a apostrophé pour lui demander l'argent parce qu'il avait quelqu'un à mener à faire il voulait couvrir les frais funéraires, il a demandé de l'argent, et la même personne l'a vu encore hier au même endroit en train de demander l'argent pour amener le même cadavre qui malheureusement traîne depuis assez de jours pour l'amener au cimetière. Est-ce que des gens comme ça, c'est aussi le problème que le gouvernement puisse les encadrer, ou aussi c'est un problème de la paresse comme vous l'avez dit?
Bon, en fait, je pense qu'aujourd'hui nous devons peut-être faire la part des choses. Parce que si ces cas-là est atteint au moins de se donner au moins donc une certaine indépendance par rapport à ceux-là qui disposent assez de moyens, c'est aussi donc une telle de stabilité par rapport à ceux-là qui se donnent au moins donc à cette pratique assez négative donc dans notre contrat ici à Bounia. Mais je demanderais tout simplement à ceux qui aussi ces mesures dont j'ai eu à citer au début, ce sont s'avère aussi importantes, voire même nécessaires, pour du moins encadrer et aussi limiter au moins cette pratique qui continue au moins à prendre donc une certaine ampleur dans notre contrée.
Merci Serge, nous allons prendre le dernier auditeur pour cette série avant qu'on remette la parole au professeur Joseph Bambé. C'est le dernier auditeur de cette série, c'est Honorable Henri, il nous appelle ici de Kinshasa. Honorable Henri, bonjour.
Bonjour, monsieur, bonjour.
Nous parlons de ces phénomènes, de cette nouvelle forme de mendicité qu'on observe dans nos villes, par exemple ici à Kinshasa, des hommes qui circulent avec des ordonnances médicales, de femmes qui semblent avoir des problèmes de transport tout le temps, qui demandent de l'argent pour le transport, et on en parle. Est-ce que vous avez aussi vécu ça, vous, en tant qu'habitant de la ville de Kinshasa?
Effectivement, monsieur, j'ai vu avec tristesse tous ces événements-là. Quand on passe devant les églises, devant les hôpitaux, sur les rues, partout on trouve des compatriotes qui sont là pour demander, pour donner des raisons diverses pour justifier leurs demandes. C'est triste, comme je viens de le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les phénomènes sociaux sont des conséquences de la gestion politique de l'État. N'importe quel phénomène social que vous constatez, c'est une conséquence de la gestion politique de l'État. Pour leur étude approfondie, afin de les combattre, il faut les fixer dans les temps. Vous verrez dans l'histoire d'un pays, à un moment donné, il y a un phénomène qui apparaît. Et si vous détectez ce phénomène-là, vous verrez qu'il est lié à une certaine cause politique, de la gestion politique, qui est aussi liée à ces moments-là précis. Donc, les gens aujourd'hui, en fait, reflètent les conséquences de ce que, des erreurs de la gestion qui ont été commises par le passé dans notre pays. Moi, je vous donne un exemple. Quand nous avons grandi au temps colonial, il était très difficile de voir un enfant de la rue. Il était très difficile de voir une prostituée. Ça faisait même la honte de la famille. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nos parents, ils étaient régulièrement payés un salaire qui leur permettait de gérer la famille et de résoudre tous les problèmes de la famille. La préoccupation principale du citoyen, c'était de trouver un emploi et de se fixer dans cet emploi-là pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille. À partir d'un certain moment dans l'histoire de notre pays, justement, moi, je fixe ce moment qui coïncide avec la gestion mobutiste de l'État. Il y a eu tout ce qu'il y a eu sur le plan économique. Il y a eu tout ce qu'il y a eu sur le plan social. Et finalement, il n'y a que le secteur politique dans ce pays qui était resté comme le seul secteur capable de garantir un salaire, une certaine stabilité à un citoyen. Or, tous les citoyens de ce pays ne peuvent pas aller dans le secteur politique. On a détruit l'agriculture, on a détruit l'élevage, on a détruit le transport, on a détruit tous les transports, le secteur productif de l'État. Et tous ces gens qui travaillaient dans ce secteur sont maintenant sur la rue. Ils cherchent comment vivre, c'est leur droit.
Mais, honorable Henri,
oui.
Mais il y a, on voit aussi des pays, si vous parlez de conséquences de la gestion politique de l'État, il y a aussi des pays développés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et d'autres pays, on voit aussi des clochards, on voit des sans-domicile fixe, les gens qui passent nuit même dehors, sur le sol, qui demandent des clochards. On peut dire que il y en a partout. Est-ce que aussi, c'est le problème aussi de la mauvaise gestion de l'État chez eux ou il y a aussi d'autres causes?
Exactement. C'est un problème aussi de la mauvaise gestion de l'État chez eux à leur niveau, avec leur spécificité. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là chez eux, ils le revendiquent, ils font des réclamations. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'un État ne puisse s'occuper que d'une catégorie de gens.
Merci. Vous voyez? Honorable Henri, merci. En définitive, vous pensez que si on améliore la gestion politique de l'État, ça va aussi avoir de l'influence sur toutes les nécessités qui sont sur la route?
Oui, mon frère.
Merci.
Bien, vous croyez que c'est par plaisir que ces gens font ça? Vous croyez que c'est par plaisir qu'une maman peut aller s'étaler au bord de la route avec son bébé pour tendre la main? Oui. Non, c'est l'État qui doit résoudre ce problème. C'est l'État qui doit savoir comment cadrer, comment placer ce citoyen pour qu'il soit productif, pour qu'il soit utile.
Merci beaucoup, honorable Henri. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous avez appelé de la ville de Kinshasa, ici dans la capitale, bien sûr, où les auditeurs des Radio Capi nous écoutent sur 103.5 MHz.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, professeur Joseph Bambe. Vous avez suivi le groupe d'auditeurs. Chacun a donné la cause de ce phénomène de mendicité. Mais effectivement, il y a dans la société les vraies nécessités. Il y en a aussi qui commettent les abus à travers la mendicité. Mais eu égard à tout ce que les auditeurs ont dit, quelles sont les causes qui peuvent amener les gens à se retrouver sur la rue, soit pour mendier d'une manière normale et même pour escroquer les gens aussi, comme mendiant M. Labbé?
Merci pour la parole encore. J'ai bien suivi l'intervention de mes amis. Et c'est dommage qu'on puisse focaliser l'attention seulement sur les pouvoirs publics. on n'explique pas un phénomène par une seule variable. Il faut plusieurs explications, il faut plusieurs facteurs, plusieurs variables. Il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de l'État. Évidemment, derrière cette argumentation, on parle de la pénurie d'emploi et le chômage. Mais il y a aussi dans la société le fainéantisme, par exemple. Il y a des coutumes, il y a des étudiants qui ne veulent pas travailler. Il y a le besoin d'argent. Il y en a qui sont surendettés et ils cherchent l'argent à gauche à droite. Il y a l'alcoolisme, il y a la toxicomanie. Tous ces gens cherchent de l'argent quand même. Et ça passe très souvent par la mendicité. Moi, je ne pense pas qu'on puisse responsabiliser uniquement les pouvoirs publics pour expliquer le phénomène de mendicité.
C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, parler de fainéantisme, c'est-à-dire qu'en principe, les gens qui ont la force de travailler, mais qui malheureusement ne veulent pas travailler, ils se font passer pour des prophètes au coin de rue et demander l'argent aux gens.
Effectivement, et je me permets ici, je me permets ici de donner la différence entre un vrai mendiant et un faux mendiant. Qu'est-ce qu'un vrai mendiant? Un vrai mendiant, c'est celui qui, faute des capacités d'emploi, bien sûr, faute des revenus, bien sûr, ou faute des solidarités familiales, il n'y a pas la distance au niveau familial, ou autre association, alors il ne peut compter que sur les dons pour subsister. C'est pourquoi dans certains pays, vous le savez, on organise de l'aide aux pauvres par la création de ce qu'on appelle chambre de charité. Ça existe, si vous suivez les infos, ça existe par exemple en France. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un faux mendiant? Ce sont ceux qui choisissent délibérément ce mode de vie au lieu de travailler. Il peut avoir l'énergie physique, il peut avoir des moyens, des opportunités sont là, mais qui choisissent délibérément ce mode de vie. Et c'est nous appelons du faux mendiant.
Et cela aussi, malheureusement, va influer comme ici aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Beaucoup de gens refusent de rendre service ou d'aider les vrais mendiants. Pourquoi? Parce que les faux mendiants, ils utilisent cela comme abus, escroquerie, ce qui influe aussi aujourd'hui sur la bonne volonté de ceux qui voudraient aussi aider les vrais mendiants, professeur.
Effectivement, nous, sociologues, nous les appelons sont des délinquants. C'est de la délinquance. Alors, la plupart du temps, très souvent, la délinquance s'exprime par la violence physique. Eux, ils n'utilisent pas la violence physique, mais la violence symbolique. C'est-à-dire, ils s'habillent d'une manière... ils s'habillent bien, très 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 bien, pour les bons français. Ils font apitoyer celui à qui ils s'adressent, pour déchirer le cœur de celui à qui ils s'adressent. Et ils le disent non pas comme un pauvre, il le dit comme un sinistré. Mais voici dans les difficultés. Normalement, moi, je ne m'en dis pas, mais je me trouve dans une situation qu'on peut appeler sinistré. Et en ce moment-là, il a en train de déchirer le cœur de celui à qui il adresse la parole. Et le médecin en question, a pitoyé, il met la main dans sa poche et il donne de l'argent. C'est une stratégie qui n'a rien à faire, mon frère, avec une véritable mendicité. Comme je l'ai insisté, un véritable mendiant, c'est celui qui a besoin de la charité. Mais celui-ci sont des délinquants qui font recours à la violence symbolique. Tandis que le véritable délinquant, il font recours à la violence physique, mais c'est symbolique. Un discours très beau, justement pour attirer l'attention et déchirer le cœur de celui à qui il demande l'aide.
Professeur, avant de prendre Philippe qui nous appelle de Kisangani et Pasteur Michel qui est en Bandaka dans la province de l'Équateur, est-ce que quelqu'un sur la route, est-ce qu'on peut distinguer un vrai et un faux mendiant? Parce que ça aussi le problème, comment on peut découvrir un vrai mendiant et les distinguer aussi des faux mendiants, professeur?
Ça, ça demande toute une formation, c'est la responsabilité des médias, par exemple, que nous appelons l'éducation par les médias. À travers son discours, à travers son habillement, à travers son langage, on peut découvrir facilement. On peut dire que c'est un menteur, et il suffit de lui poser certaines questions. Vous êtes dans un bar, quelqu'un qui passe, oh, voilà, dans notre église, nous avons des pauvres, etc., etc., et je suis envoyé, etc. Mais pourquoi? Vous pouvez poser des questions. Pourquoi on t'envoie? Et pourquoi spécialement vous? Qui est du coup? Et quand il commence à répondre à la question, il est totalement embrouillé, il ne s'en sort pas. Et vous pouvez décider facilement ce demandeur, mais par son habillement, par son langage, par sa manière d'être, on peut découvrir facilement. Et là, c'est la responsabilité des médias pour éduquer les gens à déceler facilement qui sont les vrais mendiants et les faux mendiants.
Merci, professeur Philippe. Vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, Radio Papi.
Philippe, est-ce qu'à Kisangani, vous arrivez aussi de croiser les faux mendiants sur la route, les gens qui sont déguisés pour réclamer l'argent aux gens? Est-ce que vous connaissez aussi ces phénomènes à Kisangani?
Affirmatif, le phénomène est devenu comme un fléau à Kisangani. Mais il y a lieu de dire à M. Labbé, il y a aussi des mendiants forcés que je voudrais définir.
Oui, allez-y.
Et surtout dans ma communauté. Parce que nous sommes nés des pécheurs par nature. Alors, les gens, par la jalousie, jettent maintenant des mauvais sorts. Quelqu'un qui était pêcheur, qui attrapait beaucoup de poissons, tout ça, il supportait la charge de la famille. Maintenant, on lui jette un mauvais sort, il est devenu aveugle. Il ne sait plus pêcher. Et maintenant, s'il a des enfants, des petits-enfants, il est contraint de sillonner toute la ville en train de mendier parce qu'il est devenu aveugle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cas-là? Ça, c'est pour du côté homme. Du côté femme, on voit par exemple une jolie fille de 13 à 14 ans, très jolie, on lui jette un mauvais sort, devient aveugle et tout ça, bon, elle ne sait plus faire autre chose, elle est obligée de mendier parce qu'elle ne voit plus. Ce sont des cas qui se passent dans ma communauté que je n'aime pas citer les noms.
Oui, Philippe, en fait, c'est quand on le reconnaît en tant que tel, c'est une personne sans ressources et il mendie à cause de ça parce qu'il n'a pas de ressources, mais il y a la mendicité forcée. S'il faudrait aujourd'hui parler en termes d'un enfant qu'on amène et qu'on place sur la route pour l'exiger, l'obliger à mendier, et pendant ce temps, il y a les adultes qui se cachent derrière cet enfant-là. C'est de cette forme de mendicité dont on est en train de parler, parce que l'autre mendicité, c'est bien reconnu, la personne avait des moyens, mais non, elle n'a pas de moyens, la personne ne voit plus, elle est effectivement... Elle est dans les besoins, mais c'est différent de ceux-là qui se cachent peut-être derrière une infirmité de quelqu'un d'autre pour mendier. Et c'est ce qu'on a de dire à ce niveau-là, qui s'engage, et vous le connaissez aussi.
Affirmatif, je vois par exemple, je suis au centre-ville actuellement, au niveau de l'agence solidaire et transfert, il y a toujours un enfant qui embête les gens avec ses parents là-bas à côté. Donc, dès que vous sortez de l'agence, il exige qu'on lui donne quelque chose. Et ses parents sont à côté. Et lorsqu'il a quelque chose, il va vite remettre à ses parents. Donc, on a eu à les sensibiliser, mais les parents, au lieu de comprendre, mais ils continuent à envoyer cet enfant de moins de 10 ans commander comme ça.
Merci, Philippe. Désolé pour ce qui arrive aux compatriotes en bonne santé, avec des mauvais sorts, qui se retrouvent sur la rue en train de mendier. On va aussi prendre Pasteur Michel après quelques secondes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs de ce vendredi se penche sur la mendicité, mais cette forme de mendicité que la ville de Kinshasa et dans d'autres villes qui consiste à pouvoir demander aux personnes l'argent, soit que c'est pour les soins médicaux, soit que c'est pour les frais funéraires, soit que c'est pour un voyage, un ticket de transport en commun, mais on se rend compte que ces mêmes individus sont sur les mêmes endroits, ils reviennent tout le temps, à chaque moment, ils peuvent vous demander l'argent le matin, vous demander encore le soir. Il y en a aussi qui adressent des prophéties aux passants, aux interlocuteurs, et enfin, ils leur demandent l'offrande des confirmations de la prophétie. Tout cela mélangé, on voudrait savoir comment vous les vivez dans votre milieu, et comment faudrait-il aujourd'hui faire face à ces phénomènes. Plusieurs auditeurs ont témoigné de cela. Ils ont évoqué la pauvreté, le chômage, mais sans oublier aussi le fainéantisme. Nous en parlons avec le professeur Joseph Bambé. Il est sociologue. Pasteur Michel, vous êtes en Bandaga. Mais je vais vous lire un mail qui nous a été écrit par un Serge. Serge est ici à Kinshasa. Pour lui, il pense que cette forme de mendicité est une infraction et la police doit prendre ses responsabilités et mettre aux arrêts ces genres de personnes qui font la honte de notre pays. C'est une question de dignité. La même personne qui te demande aujourd'hui va te demander encore demain, et s'il constate qu'il est reconnu à un coin, il change carrément de place. On a vu le rond-point Gaba, il a quitté Mbinza et il demande au rond-point Gaba. Il a été reconnu par quelqu'un plus vite, on l'a vu courir en vitesse, et les gens commencent à crier sur lui parce que les gens de Mbinza l'ont reconnu. Et des gens comme ça, on le rencontre presque dans beaucoup de milieux. Pasteur Michel, vous êtes en Bandaka. Est-ce que vous vivez aussi cette situation dans votre milieu?
Oui, exactement, nous vivons cette situation dans notre milieu. Moi, personnellement, je pense que notre gouvernement
doit avoir des dispositions pour qu'on puisse revoir les structures du pays. Lorsque nous parlons par exemple des mendicités, oui, vous trouverez ces gens partout dans la ville des Mbandaka en train de mendier, que ce soit les petits-enfants, ils ont aussi des parents, bon, peut-être les autres ont quitté les parents. Il y a aussi même des pensionnés de l'État qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas l'encadrement. Si je parlais des structures du pays, c'est parce que le pays devrait aussi chercher le voie des moyens pour encadrer tous ces gens-là. Prenons par exemple les pensionnés de l'État. Même s'il n'a pas fait des enfants, mais on doit quand même chercher à les garder dans un orphelinat ou bien dans un home de vieillard. Alors, cela ne se fait pas. Et si nous prenons par exemple le cas des églises, dans des églises, on fait des prophéties payantes, mais pourquoi que même les églises doivent être restructurées par les pays? On ne peut pas laisser les gens, aujourd'hui il n'est pas pasteur, demain on le voit pasteur avec un tam-tam, avec lui qui fait apôtre, ainsi de suite. Ça c'est des désordres, et ces désordres viennent dans notre pays, dans les structures qui sont organisées dans les pays. Parce que les autres ont déjà commencé les églises de milliers d'années, mais nous, c'est à peine, et nous sommes en train de faire des choses qui n'existent pas même là où on a commencé les églises.
Donc, pasteur Michel, vous dites que les structures organisées aussi favorisent cette forme de mendicité. Vous parlez des églises avec les prophéties payantes. Ça veut dire quoi, les prophéties payantes?
Oui, il y a des gens en leur église qui sont dénommés des apôtres. Lorsque vous venez, ils font une prophétie que voilà, vous allez devenir soit ministre, député, ainsi de suite. Alors, vous payez de l'argent et par après, vous ne devenez pas même député ou ministre.
Quand il vous donne la prophétie et puis après il vous dit d'essayer la prophétie, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, il y a aussi des systèmes de paiement de consultation. Vous venez chez le pasteur, il vous dit que voilà, je vais vous consulter, il y a ceci, cela dans votre vie, ainsi de suite, et vous payez même 10 dollars, nous connaissons ces églises. Alors, moi, je ne donne pas la faute à ces églises, mais la faute revient au gouvernement et à la structure de l'État qui permettent à ce qu'on puisse avoir des choses pareilles.
Merci, pasteur Michel. En tant que pasteur, vous êtes bien focalisé sur ces pratiques dans les églises qui rançonnent aussi les croyants. Bon, c'est une forme, on se déguise d'ailleurs la prophétie pour rançonner les croyants. Vous êtes en Mbandaka, vous nous écoutez sur 103 MHz. On revient ici à Kinshasa avec Petrus. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous venez de suivre l'auditeur de Mbandaka, vous avez suivi l'auditeur de Kisangani avec ses problèmes de mendicité forcée, avec ses problèmes de escroquerie déguisée dans la mendicité, tous ces problèmes liés ici à Kinshasa, comment vous les vivez et surtout comment on peut faire face à cela, Petrus?
Bon, moi j'interviens, ce n'est pas pour poser une question, mais je voudrais apporter une contribution.
Allez-y, on vous écoute.
Cette tendance que nous avons à toujours condamner le gouvernement, toujours condamner l'État. Mais j'ai reçu une partie de réponse chez M. Labbé, votre invité, et j'ai bien compris que l'État, c'est une variante. Il y a plusieurs variantes. Il vous souviendra qu'ici, la population a tout détruit. Un jour, on a décidé de casser les sociétés, de piller. Bon, c'est ça qui provoque le manque d'emploi ou le chômage. C'est ça. Et puis, ce n'est pas l'État, ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Il y a des privés, des particuliers, c'est ça. Ce sont les particuliers qui crée des emplois, qui engage des gens, et c'est ça qui crée la richesse. Il ne faut pas toujours condamner l'État. La population a une partie de responsabilité à sa part.
Oui,
pourquoi nous avons payé? Pourquoi nous avons cassé les sociétés? C'est ça qui a augmenté le chômage. Alors les églises, mais écoutez, soyons francs. Non, les églises n'apportent pas de solution. Il faut, bon, c'est vrai, on peut prier et tout ça, mais c'est ça, mais il faut travailler. Les Écritures disent qu'il faut travailler, il faut prier. Il n'y a pas de la sorcellerie, c'est ça les faits. C'est comme ça.
Et il faut que les gens travaillent. Merci beaucoup.
Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens travaillent. Ceux qui ont l'argent, il faut qu'ils créent des emplois. Il faut qu'ils engagent les chômeurs. Il faut permettre aux Congolais de s'enrichir et de produire. Voilà.
Voilà.
Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à l'État de faire ceci, de faire cela et tout ça. L'État ne peut pas s'occuper de tout.
Mais bon, cela ne passe plus aussi que l'État puisse faciliter hein, à la population, à la création des emplois peut être aussi facilitée par l'État. L'État peut mettre les gens dans les conditions, ils peuvent créer des emplois, créer des sociétés
l'État
aussi.
L'État met en place des mécanismes et il encadre pour ce système. Nous n'appartenons pas à l'État de créer des emplois et tout ça, non, non. C'est comme ça. Vous croyez que ça marche comment? Ailleurs, ça marche comment?
Mais Patrice, vous dites qu'il n'appartient pas à l'État de créer de l'emploi, c'est que l'État n'a pas la
responsabilité de l'emploi. Il n'appartient pas à l'État tout seul de créer des emplois.
Ah, c'est-à-dire qu'il faut
l'État a l'obligation de mettre en place les structures nécessaires pour encadrer tout ce système. Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'État seul de créer des emplois.
Voilà,
L'État peut
voilà.
créer des emplois
et les privés peuvent aussi créer.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Petrus. Vous êtes à Kinshasa. Nous allons à Boutembo où se trouve Benoît. Benoît, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, j'ai dit. Bonjour.
C'est Pierrot et la musique est au micro.
Pierrot, oui, pardon. Mmh. Moi, ma préoccupation est la suivante, hein, monsieur Pierrot.
On vous écoute.
Donc, vous savez, ici, dans le problème de mendicité dans notre pays est devenu comme un fléau. Moi, j'ai rejoint l'auditeur des deuxième auditeur de Kamanga. Il commençait par bien de spécifier l'émission d'aujourd'hui en nous disant que l'État a la charge de prendre sa population. Donc il faut que l'État prenne sa population à charge. Donc nous sommes ici au dos de l'Ouganda, M. Pierrot. Donc l'État se charge quand même de quelques boulots, de quelque chose que la population est en train de prendre comme une situation de boulot, quoi. Alors, moi, je voulais dire ceci. Ici, même à Boutembo, vous allez trouver un officier militaire qui demande, un officier policier, un policier qui a bonne santé, qui demande, même à l'université, partout, les étudiants demandent. Alors, si l'auditeur nous dit que l'État n'a pas la charge de chercher quelques boulots aux gens, en tout cas, ça nous fait la peine, hein?
Oui, ben non, vous pensez que il revient vraiment à l'État de mettre des mesures qui facilitent aux gens d'avoir l'emploi, de permettre aux gens d'avoir l'emploi même d'encadrer la population.
La population.
Oui.
Donc l'État va faciliter la population à faire tout. Donc même ici en Ouganda, au tout près de chez nous, monsieur Pierrot, donc l'État facilite quand même donc la population à faire quelque chose. Si ce soit l'agriculture, tout, donc l'État prend quand même la charge des gens.
Merci Benoît, vous contribuez. Petrus, qui lui s'acharnait sur le fait que les auditeurs ne doivent pas s'acharner sur l'État, comme si l'État pouvait tout faire. Benoît, vous êtes à Boutembo, c'est dans la province du Nord Kivu. On va au Kasaï oriental en Mbujimayi. Ladis, bonjour.
Bonjour.
Ladis, pourriez-vous nous décrire un peu en Mbujimayi si vous connaissez ces phénomènes de mendiants déguisés qui sont en train de renseigner les gens à gauche à droite pour présenter leur misère comme nous l'a présenté M. Labbé?
Oui, le phénomène de la mendicité en Mbujimayi, vraiment, c'est le cas ici. Dans tout le monde, vous voyez des hommes, des femmes, des enfants qui ont trouvé la mer et de l'eau dans les châteaux, les villes.
On a un problème de ligne. La 10, on va vous récupérer juste après quelques secondes, le temps que la réalisation essaye de répondre votre ligne. Et là, on pourra redonner la parole au professeur Joseph Bambé.
Parole aux éditeurs.
Le professeur Joseph Bambé, vous avez suivi les auditeurs avec ces tiraillements sur les niveaux de les degrés de responsabilité. Est-ce que faudrait-il aujourd'hui que l'État puisse prendre la responsabilité d'abord d'identifier les vrais nécessiteux qui peuvent être reconnus en tant que tels au sein de la société, de pouvoir les encadrer dans les centres d'encadrement des nécessiteux, et comme ça peut aussi aider la population à ne pas être affrontée à tout autre tout faux mendiant. Est-ce que l'État peut prendre la charge des vrais nécessiteux, les regrouper, et comme ça, on pourra voir qui est vraiment bien, qui est faux mendiant.
comme je l'ai dit, un phénomène ne s'explique pas par une seule variable. J'ai du mal à croire que l'État puisse, comment dirais-je, réaliser cette responsabilité. L'État travaille de commun accord et en collaboration et en coopération avec les acteurs sociaux. Il ne faut pas oublier un élément. Tout changement de comportement, je le dis bien, tout changement de comportement ne se fait pas par un décret. Hein. C'est une pédagogie d'en haut. Il n'y a pas de problème. Le changement de comportement passe plutôt par la conscientisation. Et la conscientisation n'est pas seulement la responsabilité de l'État. Nous avons des associations, nous avons des églises, nous avons des clubs, nous avons toutes autres organisations qui peuvent finalement jouer ce rôle de conscientisation pour que les gens se rendent compte de l'État dans lequel ils se trouvent. Moi, je suis mendiant, je suis capable de travailler. Pourquoi je me suis donné délibérément à ce mode de vie? Ce changement de comportement passe plutôt par la conscientisation et non pas par un décret de la part de l'État. Ça nous allons prendre des décisions, peut-être les mettre en prison à un endroit, on ne sait pas pour qu'ils puissent changer de comportement. Le changement de comportement ne se fait pas par un décret, par une pédagogie descendante, mais par la conscientisation. L'information ne suffit pas, la sensibilisation ne suffit pas, mais plutôt la conscientisation des individus. Et la conscientisation n'est pas nécessairement la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de tout le monde. On peut s'organiser à ce sujet. Vraiment, point de vue, et j'ai du mal à croire que c'est l'État qui va arranger ce problème. Pourquoi? La réponse est claire aussi. Il y a à travers le monde des pays qui se chargent vraiment pour que les affaires sociales puissent avoir du boulot, du travail. Mais dans ces pays, tu vois aussi des délinquants, des mendiants. Et alors, vraiment, moi, je ne comprends plus rien. Alors, ce que je me dis est que c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'État. Je n'exclus pas l'État dans cette responsabilité. Mais l'État travaille en conjugaison avec les affaires sociales.
Merci, professeur Joseph Bambé. Nous avons aussi en ligne le professeur Mwabila, il est aussi sociologue professeur. Nous sommes en train de parler d'aujourd'hui de la forme de mendicité qu'on observe dans les grandes villes, hein, ici en RDC. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui font semblant d'être mendiants, ou soit qui vous demandent dans chaque coin de rue tous les jours l'argent des transports, tous les jours l'argent des soins médicaux, les frais funéraires. Ils demandent aussi, il y a même des prophéties qu'on adresse aux gens, et enfin on leur demande de l'argent. Et ça concerne beaucoup de coins de rue. Depuis le début de cette émission, il y a les auditeurs qui ont mis cela sur la responsabilité de l'État pour dire que c'est parce que l'État n'a pas donné de l'emploi aux gens. Les gens sont au chômage et c'est pour ça qu'ils s'adonnent à ces pratiques. Les autres pensent aussi que les gens sont tellement paresseux qu'ils ne veulent pas travailler et c'est pour cela qu'ils se déguisent en mendiant dans la société pour escroquer les uns et les autres professeurs. On vous donne la parole. Hein. Votre compréhension par rapport à ces phénomènes et comment on peut faire face à cela dans notre société, professeur Mwabila.
Oui, mais j'ai suivi l'intervenant précédent qui parle de la conscientisation. Je suis d'accord avec lui sur la conscientisation. Je suis d'accord avec lui qu'il n'y a pas que l'État qui doit s'occuper de cela. Il y a tous les acteurs sociaux qui devraient s'y mettre. Mais vous savez, le problème est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, parce que il faut d'abord interroger la forme de notre société. Nous sommes une société qui est une société qui vit dans la modernité, mais globalement une société pauvre. Mais une société pauvre est très désarticulée, parce que vous avez des personnes qui vivent vraiment la grande vie ici et qui peuvent se permettre n'importe quel type de consommation. Vous avez toute la société qui vous incline à un certain type de consommation et le revenu ne suivent pas. Et d'autre part, vous avez des gens qui sont d'une pauvreté extrême et d'autres qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui voudraient bien avoir du travail, mais qui n'ont pas la possibilité de travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut-il conscientiser? Qui va s'occuper de cela? Mais il y a tout cela, bien sûr, mais il y a aussi le fait que toute la société devrait tendre vers un développement, mais un développement intégral, un développement qui touche à la fois la société et qui touche également l'homme. Alors, s'il y a des fonds mendiants, c'est pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, Et que non, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à un type de consommation auquel ils aspirent. Et pour accéder, il faut que l'environnement général puisse leur procurer les moyens de le faire. J'aimerais vous donner un exemple très simple, auquel les gens ne pensent pas beaucoup. Regardez par exemple le nombre de personnes qui sont à l'école primaire et à l'école secondaire. L'année dernière, les chiffres que nous avions des jeunes gens qui terminaient l'école secondaire avoisinaient les 300 000 et les 400 000. Ils étaient 400 000 à se présenter. Il y a peut-être 300 000 qui ont réussi. Mais ces personnes, ces 300 000 personnes qui sont sorties l'année dernière de l'école secondaire, n'ont aucun espoir, ne peuvent pas s'inscrire à l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur n'offre que 20 à 30 000 places dans les classes de recrutement. Ils peuvent rien faire. Alors, la société ne leur donne pas du travail, ne peut pas leur donner du travail. La société ne s'organise pas de manière à pouvoir attirer les investisseurs pour qu'il y ait des investissements productifs qui demandent de la main d'œuvre. Tout ça ne se fait pas. C'est comme une société bloquée, désarticulée, et qui fait qu'il y a des gens qui vivent là-bas, qui doivent chercher des stratégies de vie et qui s'adonnent à cette fausse mendicité. C'est un problème de société qui est très important, sur lequel on doit se pencher et sur lequel on doit trouver des solutions adéquates.
Comment vous parlez de la société ne leur donne pas les moyens, cela veut dire qu'on prend les deux, les pouvoirs politiques et aussi les acteurs sociaux. Mais on peut dire que la grande responsabilité proviendrait bien sûr du pouvoir politique, parce que c'est le pouvoir politique qui peut faciliter aussi aux autres acteurs sociaux de prendre tous ces gens en charge, professeur.
Je voudrais rectifier, je n'ai pas dit que la société ne donne pas. Si je l'ai dit, c'est un lapsus. J'ai dit la société n'offre pas.
N'offre pas, oui.
N'offre pas suffisamment de débouchés et de possibilités pour que ces gens-là puissent avoir droit à la vie. Parce que le droit à la vie est proclamé par la Constitution. Le droit à la vie, c'est le droit au travail, c'est le droit à la formation, c'est le droit à ceci et à cela. Notre système, même notre système de formation, est très limité par rapport aux diplômes qui sont donnés. C'est très, très limité. On devrait ouvrir pour arriver à créer une société de savoir, une société qui peut alors offrir le savoir à des personnes qui peuvent mettre ce savoir en pratique de manière à eux-mêmes créer des emplois et créer des situations pour qu'ils puissent avoir des revenus. Alors, comment créer cela? Il y a des facilités que le gouvernement peut aider, notamment avec les banques, les microcrédits, tout cela, toutes ces choses-là devraient concourir à faire qu'une société soit une société viable qui offre des possibilités à des gens pour que la vie soit une vie acceptable. Pour le moment, la vie au Congo n'est pas acceptable.
Oui, professeur, vous allez préparer encore une deuxième intervention par rapport aux propositions. Le temps de prendre aussi André qui est à Kindu et nous allons revenir à vous, professeur Mabilwa. André, vous êtes à Kindu. André, bonjour.
Bonjour.
André, on vous écoute parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au niveau de la société, par exemple à Kindu? Qu'est-ce que vous proposez à Kindu qui peut être fait pour aider à mettre fin au phénomène que nous avons évoqué depuis le début de cette émission, de tout ce qui se présente dans la société, des faux mendiants, tous ceux-là qui recourent derrière la mendicité pour vivre? Quelles sont les propositions que vous faites, vous qui êtes à Kindu, dans la province de Maniema?
Bon, notre proposition ici à Kindu, nous travaillons quand même sur les chats. Bon, c'est tout ce que nous faisons ici. Mais vous savez, notre gouvernement à présent ne fait rien.
Oui, André, on vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez?
Bon, moi je propose surtout de travailler sur les chats et aussi de vendre les objets ici au marché. Et quand même, d'ouvrir quelques organisations. Bonjour.
Merci, André, en train de saluer son compatriote. Vous proposez que les gens s'adonnent au travail des champs à Kindu. Ça peut aider à régler ces problèmes. On revient à vous, professeur Mabilwa, pour vous donner la parole. Une dernière question pour vous. Est-ce que si l'État facilitait tout cela, mais au niveau de la mentalité, si quelqu'un est déjà ancré dans cette pratique, pensez-vous que si on lui donnait les moyens il peut facilement se retrouver. Faut-il pas aussi travailler sur la conscience, la mentalité des gens? Comme ça, dès qu'on améliore les conditions de vie et que la personne comprenne comment il doit utiliser ce qu'il a, on ne pourrait tomber dans ces pratiques, professeur.
Oui. Vous savez, dans tout cela, il y a une relation entre ce que la personne fait et les satisfactions que la personne peut avoir à ce qu'elle fait. Je crois que le tout doit aller de pair. La conscientisation doit aller de pair avec les facilités à offrir, que la société peut offrir. Tout cela allant de pair, et évidemment, également une certaine... Moi, je suis chrétien, je dirais évangélisation. On doit évangéliser ces gens-là, leur faire comprendre que le côté négatif de ce qu'ils font, et c'est que ça entre toujours dans la conscientisation. Mais la conscientisation seule ne peut pas arriver à résoudre cette question. Mais la conscientisation couplée aux facilités que la société doit offrir, et cela peut arriver à de bons résultats. Mais pour le moment, lorsqu'on regarde l'évolution des choses, la vision que la société congolaise nous offre, etc., je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas une ouverture. Pour de longues années encore, nous aurons ces mandias-là. Pour de longues années encore, nous risquons d'avoir toutes ces antivaleurs, non seulement ces mandias, mais également les gens qui viennent vous attaquer pour vous arracher ce que vous avez. Le phénomène de la par exemple, aujourd'hui. Ça entre dans la même ligne de réflexion qu'il faudra faire.
Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sociologue. Merci de nous avoir donné de votre temps dans cette émission pour répondre aux préoccupations des auditeurs. Nous prenons le dernier auditeur, hein, c'est Fabien qui nous appelle des Kalemi au Katanga. Fabien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le dernier auditeur, hein, Fabien. Qu'est-ce que vous proposez pour parvenir à aider la population des Kalemi et par rapport à ce phénomène que nous avons évoqué depuis le début de cette émission de la mendicité, que ce soit les vrais mendiants ou les faux mendiants, Fabien?
Oui, merci Pierrot pour m'avoir appelé. Bonjour tout le monde de notre partie. En fait, je voudrais juste intervenir pour ce cas beaucoup plus alarmant. En fait, il est dit qu'à la sueur de ton front, tu pourras vivre. Ce qui est en train d'être inquiétant, c'est quoi? C'est tout cela qui s'appelle prétendu religieux et les débuts de réveil. C'est tout à fait des gens qui demandent. Les pauvres malheureux qui viennent pensant que chez eux où ils pourraient trouver la manne qui peut tomber du ciel. Mais le contraire est quelque chose, hein. C'est pour passer pour les mendiants. Et tu sais que, à ce que le gouvernement en place mette fin à ce phénomène-là, on doit essayer un peu de mettre le pont sur les yeux et les traits sur les clés. Qu'on puisse éradiquer une fois pour toutes.
Merci Fabien, vous sensibilisez les églises, vous sensibilisez les pouvoirs publics, hein, tous les deux doivent se mettre ensemble pour travailler et éradiquer ce phénomène. On vous dit merci. Avant de donner la parole au professeur Joseph Bambe pour clôturer cette émission, nous lisons les mails de Madame Charlie qui est à Kisangani. Elle dit ceci: ce phénomène est à décourager, il s'observe partout, et les concernés trouvent bon de vivre dépend de ceux qui les écoutent, et cela sans scrupule, en plus de la pauvreté, d'insuffisance d'emploi dans notre pays, il y a un problème de mentalité. Les gens ne veulent pas travailler et faire gagner la vie sans moindre effort. Pourtant, la RDC est enviée par le monde entier pour ses terres arables, ses forêts et ses eaux. La responsabilité est donc partagée entre les pouvoirs en place qui n'a pas eu une politique d'encadrement des personnes sans emploi et la population qui ne s'en donne pas au travail malgré les opportunités. C'est l'avis de Mme Charlie de Kisangani. Et enfin, Jean de Dieu Mangambo de la Belgique dit ceci: le problème de mendicité est partout dans le monde, même en Europe, en Asie. La plupart de ces gens sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler et ils pensent que cette activité leur procure beaucoup de moyens de facilité. Ce n'est pas constaté que dans les villages ou petites cités, uniquement dans les villes à grande agglomération. Professeur Joseph Bambo, vous donne la parole parce que nous avons là 1:30 qui nous sépare de la fin de cette émission. Si vous, en dépit de tout ce que les auditeurs ont dit, tout ce qu'on a évoqué dans cette émission, quel est le mot de conclusion que vous pouvez donner aux auditeurs?
Merci pour la parole. C'est une intervention très intéressante.
entendre, plus particulièrement l'intervention de mon collègue, le sociologue. Merci pour l'intervention. Mon point de vue est que je ne donne pas la responsabilité à un seul acteur dans ces grands phénomènes que nous appelons la mendicité. C'est une responsabilité partagée. Bien sûr, les pouvoirs publics constituent le moteur du développement dans un pays, qu'on le veuille ou pas. Et je répète, comme je l'ai dit, c'est une responsabilité partagée avec les acteurs sociaux. Et pour les acteurs sociaux, il y en a qui s'accommodent. Cet État leur est vraiment en vrai naturel. Et quand on parle du fainéantisme, on peut leur donner du boulot, mais ils préfèrent demander à gauche, à gauche, à droite, parce que ça ne leur coûte absolument rien. Donc, la loi du monde est forte. Moi, je pense que quand on parle de la conscientisation, il s'agit de décristalliser ce qui est décristallisé chez les individus pour qu'ils puissent voir le mal dans lequel ils sont plongés.
Merci,
et on va prendre conscience de tout cela. Alors, j'insiste sur la conscientisation, puisque par la conscientisation, on implique non seulement les acteurs sociaux, mais aussi le pouvoir public.
Merci beaucoup, professeur. Nous vous disons merci d'avoir accepté de participer dans cette émission et aussi le professeur Mwabilwa.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à tous les auditeurs qui ont participé aux paroles, aux auditeurs d'aujourd'hui et ceux-là qui en avaient la volonté mais qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les antennes. On se retrouve lundi 15 mars prochain pour parler du recrutement des enfants dans les groupes armés. D'après les résultats rendus publics hier par la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats, les enfants peuvent constituer jusqu'à 40% des effectifs des groupes Mai Mai au Nord et Sud Kivu. La question des paroles aux auditeurs, comment protéger les enfants contre les recrutements dans les groupes armés, réagissez à PA@radioocapi.net. Merci et bon week-end à tous.